France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Jacques Chirac ne s'arrête jamais. Épisode 2. Un provincial maire de Paris. Les relations du Premier ministre Jacques Chirac avec Valéry Giscard d'Estaing ne sont pas bonnes. Sur le style, tout les oppose. Quoi de commun en effet entre la tenue aristocratique du président de la République et le côté bon vivant de son Premier ministre. Chirac estime par ailleurs que Giscard ne le laisse pas agir et qu'il serait mieux en dehors du gouvernement pour préparer la suite de sa carrière. Le 25 août 1976, il présente sa démission.
Je viens de remettre la démission de mon gouvernement au président de la République. En effet, je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre.
À peine remplacé à Matignon par Raymond Barre, Jacques Chirac pense déjà à la suite. Son premier réflexe est de retrouver son assise corrézienne. En novembre, c'est chose faite. Il a regagné son siège de député.
Après les événements qui se sont produits depuis notre dernière élection en 73, nous estimions nécessaire d'être confirmés dans notre mandat, de nous assurer que la majorité des électrices et des électeurs de notre circonscription nous faisait toujours confiance. Ils l'ont démontré sans ambiguïté et nous en sommes l'un et l'autre particulièrement heureux.
Ce siège de député, il va le conserver jusqu'en 1995 et son entrée à l'Élysée. La recette de cette longévité, l'obtention de quelques avantages pour sa circonscription et une grande proximité avec ses électeurs.
Chirac, tout de suite, dans le plus petit bistrot de campagne, il buvait le coup. S'il fallait boire un rouge, il buvait un rouge. Il a tout de suite été à l'aise. T'es fou, quoi. Quelqu'un de cette envergure venir passer son temps au conseil municipal de Chavroche où il y avait 5 plaies entendues. Il faut vraiment vouloir le faire, hein. Il m'avait dit un jour, moi, tu sais, ici, je vis. J'ai quand même fait des dîners privés où on lui faisait de la tête de veau, où il se resservait 4 fois. Il était toujours en train de déconner, de toute façon, hein. Même sur les femmes.
Et il ne nous parlait pas politique, il parlait économie.
La politique, c'était pour les choses officielles.
Il savait nous donner, par exemple, des terrains de tennis. Il savait trouver l'argent pour réparer le clocher.
Ben, c'est-à-dire que, vous voyez bien ce qu'on était, hein. Il n'y avait pas grand-chose. Et il nous amenait toutes les industries. Et UCL s'est développé à une cadence, là, construction éclatée de partout. C'était la providence pour nous.
Bruno Dive, vous êtes journaliste au Canard Enchaîné et auteur du livre Le Dernier Chirac chez Mareuil Éditions avec une préface de François Hollande. Le vrai Chirac, justement, pour vous, est-ce que c'est celui qui sert des centaines de mains par jour à Ussel ou bien le mari de l'aristocrate Bernadette Chaudron de Courcelles qui vit à Paris dans les palais de la République?
Ben, ça a d'abord été l'arrondissementier type. C'est encore, quand on pense à un homme politique qui serre les mains, qui quadrille, comme on dit, sa circonscription, on pense automatiquement à Chirac. Et depuis de cette campagne en 1967, où en effet il a quadrillé systématiquement sa circonscription, était dans tous les villages, serré toutes les mains, recueilli toutes les doléances, et ça il a fait ça ensuite pendant des années, jusqu'à la fin de sa carrière. Encore au Conseil constitutionnel, il intervenait auprès de Jean-Louis Debré, quand il siégeait, vous savez, comme ancien président au Conseil constitutionnel. Il intervenait auprès de son ami Jean-Louis Debré, qui était président du Conseil, pour intervenir, pour faire embaucher telle fille de la charcutière de Meymac. Donc il a fait ça absolument toute sa vie.
Donc pour vous, il est plus proche de Ussel ou il est plus proche des palais de la République à Paris ?
Je pense qu'il y a quand même deux périodes. Il a été plus proche de Ussel, d'Ussel et de Meymac et d'Aigleton, enfin cette grande circonscription du nord de la Corrèze, tant qu'il a il n'a pas été président de la République. Même quand il était Premier ministre, maire de Paris, il a veillé toujours à avoir ce lien du cœur avec la Corrèze. Quand il est devenu président de la République, forcément, il a été happé par beaucoup des questions internationales. Il s'est un petit peu enfermé à l'Élysée aussi, mais il a toujours veillé à revenir chaque année. Il y avait des vœux au début de l'année, vous savez, les traditionnelles et incontournables cérémonies de vœux, et il revenait chaque année dans son ancienne circonscription.
Vous êtes de type provincial et vous êtes maire de Paris. Il n'y a pas là une certaine ambiguïté?
Ah, vous savez, écoutez, ça, j'ai fait ma campagne quand j'ai décidé d'être candidat à Paris. Et je l'ai fait aussi, comme aujourd'hui je vais dans les provinces, c'est-à-dire j'ai fait une campagne dans la rue. Certains de vos confrères ont appelé ça une campagne à la corrézienne, mais je veux dire par un contact permanent. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que je n'avais jamais rencontré autant de corréziens qu'en faisant ma campagne à Paris, et je ne parle pas des représentants de tous les autres départements ou provinces françaises. Des parisiens, il y en a très peu.
Toute la province est à Paris.
Extrêmement peu. Paris est la synthèse de la province. Et d'ailleurs, j'avais cru longtemps que Paris était une ville, essentiellement une ville et rien qu'une ville. Et pendant cette campagne, d'une part, depuis que je m'occupe de Paris et avec de plus en plus de passion, je vous le signale, parce que c'est passionnant, je m'aperçois que Paris, c'est une succession de villages, de communautés, d'hommes et de femmes qui sont pour l'essentiel des provinciaux.
Bruno Diff, que vous inspire cette archive ?
Ben, je crois qu'il dit il dit beaucoup de choses sur le fait que bon, vous trouverez peu de Parisiens qui se disent authentiquement parisiens. On aime toujours afficher ses origines provinciales. Quand il arrive à Paris en 1977, quand il se présente à la surprise générale hein, d'ailleurs, et avec une campagne éclair, parce qu'il faut rappeler qu'il se présente au mois de janvier 1977 pour faire contrepoids à Michel Dornano, qui est le candidat de Giscard. L'élection a lieu en mars, donc c'est une campagne qui dure à peine 2 mois. Il va reproduire en effet ce qu'il a fait en Corrèze, c'est-à-dire aller dans tous les arrondissements pour faire voir, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Hein. Il y a eu toutes ces nombreuses affaires qui lui ont d'ailleurs valu beaucoup plus tard une condamnation pour les emplois fictifs, mais il était, je pense qu'on peut dire qu'il était le maire de tous les Parisiens, parce qu'il ne dédaignait aucun arrondissement. On pourrait peut-être pas en dire autant de la maire actuelle de Paris, d'ailleurs. D'ailleurs, ça se voyait, ça se traduisait dans les urnes, puisqu'il a réalisé 2 fois le Grand Chelem, et il a été élu dans tous les arrondissements.
Alain Duhamel disait qu'il y avait chez Chirac un côté médecin de famille rural du temps jadis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que c'était, au fond, une façade qu'il se donnait ?
En tout cas, c'est comme ça que le ressentaient les gens, je pense. Lui, il y avait forcément une part de sincérité, on ne peut pas se forcer tout le temps à faire ce genre de choses, mais en tout cas il faisait le boulot. Je pense qu'il faut quand même aimer les gens pour faire ce genre de choses. Là, oui, l'image du médecin de famille me paraît judicieuse, parce que c'est surtout dans les campagnes, on aime bien avoir de la visite, on aime bien être réconforté. Il y avait un côté psychologique, en plus de voir le grand Jacques qui arrivait de Paris, qui était au début secrétaire d'État, puis ministre. Il venait au début, il faisait campagne, c'était une autre époque. Hein. Il arrivait avec sa voiture officielle, le préfet avait tout préparé, le sous-préfet, c'était une sous-préfecture, Ussel, lui disait, vous savez, un tel, la femme de Raymond, là, était malade, il le prévenait avant, il arrivait dans la cour de ferme, il disait, comment va notre malade ? Enfin, il y avait il donnait l'impression, en tout cas, il savait donner l'impression qu'il connaissait tout le monde et qu'il s'intéressait à tout le monde. Il pouvait être aussi impitoyable. Hein. Il n'a pas fait de cadeau à ses rivaux politiques. Il n'a pas fait de cadeau. Il a parfois abandonné des amis ou des compagnons de route sans trop de scrupules. C'était quelqu'un de très plastique sur le plan des idées. Mais en effet, s'il y a la continuité, c'est peut-être cette forme d'humanisme dans le rapport aux gens, en tout cas aux gens de la base, encore une fois, parce que ceux du sommet, ils pouvaient se montrer aussi impitoyables.
Et d'ailleurs, on dit qu'il n'était pas si mondain et qu'il fuyait les cocktails et les réceptions. Au fond, oui. Peut-être était-il davantage à l'aise, en effet, dans un PMU à Ussel qu'à Paris dans un cocktail.
Absolument. Il disait, je préfère être assis chez moi que debout chez les autres. Donc, il n'aimait pas trop ces réceptions où il allait, mais en effet c'était pas quelqu'un de mondain, c'était quelqu'un de sociable, mais en fait on l'a découvert sur le tard, c'était quelqu'un d'assez solitaire et d'assez secret, Bon, il avait quelques amis, mais assez peu d'amis. Quand il était à l'Élysée, le dimanche, il sortait pas, il voyait pas grand monde, et il se réfugiait dans cette littérature sur les arts asiatiques, qu'il a longtemps dissimulé, sans chercher forcément à faire partager ses passions.
Bruno Dive, en termes d'emploi du temps, comment pouvait-on être à la fois maire de Paris et présent dans une province française, en Corrèze? Est-ce que il pouvait vraiment se démultiplier? Est-ce qu'il arrivait à faire ces deux choses-là? C'était l'époque du cumul des mandats.
Alors, oui, voilà, c'était comme on dit maintenant, c'était une autre époque. C'est d'ailleurs quelque chose qui était inenvisageable parce qu'il cumulait en fait deux présidences de conseil général, celle de la Corrèze, il a été président du conseil général, et celle de Paris, puisque Paris, vous savez, est une ville et aussi un conseil départemental, comme on dit maintenant. Il a donc été maire de Paris et député de Corrèze, et il a été aussi maire de Paris, président du RPR et Premier ministre en 86-88. Alors c'est quelqu'un qui dormait peu, 4 heures par nuit, on en connaît un autre aujourd'hui.
Qui serait président de la République.
Voilà aussi, mais qui lui n'a jamais eu de mandat locaux par contre. C'est quelqu'un, je pense, qu'il savait beaucoup déléguer, c'est-à-dire à la mairie de Paris, il s'est beaucoup appuyé sur ses premiers adjoints, successivement Christian de la Malène, puis Jean Tibéri, mais aussi sur Alain Juppé, qui, n'oublions pas, était directeur des finances de la ville, puis adjoint aux finances. Il s'appuyait donc beaucoup sur ses adjoints, donc tout en contrôlant tout.
Et il contrôlait quand même, donc c'était vraiment lui le patron.
Il contrôlait, oui, bien sûr. Il était là, quand il était Premier ministre en 86-88, il était Premier ministre dans la journée, le soir, il repassait à l'hôtel de ville pour signer ses dossiers, ses parapheurs. Bon, il tenait moins de réunions, mais il veillait au grain. Et en Corrèze, il avait des gens à lui. Hein. Il avait des affidés, Henri Belcourt, Charles Serac, son suppléant, et il y avait beaucoup de gens comme ça qui tenaient des fidèles, qui tenaient la circonscription, et la même chose à la tête du parti, avec Alain Juppé, Jacques Toubon d'abord, puis Alain Juppé, où il a toujours placé des fidèles à la direction du parti.
Mais c'est une voracité de pouvoir de garder comme ça la main sur autant de mandats?
C'était... Oui, il y avait, je pense, une inquiétude. Un jour, il m'avait dit, je l'avais accompagné justement dans la campagne de 1995. C'était encore en janvier, en décembre 94. Il était vraiment au fond du trou. Baladur était encore en majesté dans les sondages. Et je lui avais demandé, mais pourquoi vous démissionnez pas de la mairie de Paris pour histoire de montrer votre détermination? Ça sera l'Élysée ou rien. C'était un peu naïf comme question de ma part, mais et il m'avait répondu en faisant le geste. Il faut toujours garder une poire pour la soif, en mettant la main à sa poche comme ça. Et je crois que c'était ça, il y avait la peur de, en perdant un mandat, de tout perdre et de dévisser quoi, aussi vite qu'il était monté.
En 1980, Jacques Chirac se rend dans une école primaire de la ville de Paris dont il est le maire et discute avec les enfants. La séquence est enregistrée par l'équipe de L'Oreille en Coin, émission satirique de France Inter.
Monsieur le maire de Paris, Jacques Chirac, nous a fait le grand honneur de nous recevoir à la mairie de Paris. Bonjour monsieur le maire.
Comment tu t'appelles ? Guillaume. Je voudrais d'abord te féliciter, parce que tu as très bien tourné ton petit propos, là, pour commencer. Tu as très bien arrangé ça, je te félicite. Alors, quelles sont les questions que vous voulez me poser ?
Monsieur le maire, je voudrais savoir où vous êtes né, s'il vous plaît.
Eh bien, écoute, je suis né à Paris, comme beaucoup de gens, et je suis né dans le 5e arrondissement, tu vois, pas loin de ton école. Mais je suis né à Paris un peu par hasard, parce que je suis, moi, originaire d'un département qui est dans le centre de la France, tu vois, et qui s'appelle la Corrèze. Et j'ai beaucoup habité en Corrèze, et c'est un département que j'aime énormément.
Monsieur le maire, que va-t-on faire à la place des abattoirs de la Villette ?
Eh bien, il y a un grand projet, on va faire d'abord un grand musée, et c'est une très bonne chose, de ce qu'on appelle la technologie, c'est-à-dire un musée de la science, un musée de toutes les techniques modernes qui sera rassemblé dans un grand bâtiment aux abattoirs de la Villette. Et puis il y aura aussi un grand jardin.
Monsieur le maire, y aura-t-il des amendes pour les chiens ?
Ça t'ennuie de voir les trottoirs salis par les chiens.
Oui.
Et tu te fais attraper par ta maman quand tu rentres. Avec les pieds sales. Voilà. Et moi, je me fais attraper aussi. Ta maman t'attrape, mais également, elle m'attrape moi, en général, en m'écrivant ou en protestant à juste titre pour me dire que c'est honteux que les trottoirs soient sales. Et pourtant, les chiens existent, on ne peut pas les tuer, n'est-ce pas ? On ne peut pas les faire disparaître. Ce sont des compagnons nécessaires pour beaucoup de gens. Alors, nous essayons en ce moment d'expliquer à tout le monde qu'il faut faire attention et de ne pas laisser les chiens faire leurs besoins sur le trottoir et n'importe où.
Bruno Dive, qu'entendez-vous dans cette archive ?
Bah, une forme de proximité, j'avoue, je connaissais pas cette archive. Il s'était fait connaître au début de la mairie de Paris par son combat contre les crottes de chiens. Vous vous souvenez des motocrottes.
C'est peut-être cet enfant qui lui a donné l'idée des motocrottes.
Et puis il avait eu cette formule trop oubliée, les trottoirs ne sont pas des crottoirs.
C'est des motos qui aspiraient.
C'est des motos qui aspiraient, qu'on a, je ne sais pas très bien pourquoi d'ailleurs, elles ont disparu.
Je crois que ce n'était pas très efficace.
C'était peut-être pas très efficace. Et puis depuis, il y a eu, ce qui paraît plus sage, l'appel à la discipline des propriétaires de chiens qui ramasse eux-mêmes. C'est peut-être aussi plus économique. Mais en tout cas, on entend là un maire qui veut montrer, en tout cas, qu'il est vraiment au niveau des problèmes quotidiens que vivent les Parisiens.
Alors, quelles ont été les grandes réalisations, selon vous, de Jacques Chirac pour Paris ?
Alors, quand on regarde, bon, il parle de la Villette, mais qui devient donc cette grande salle, puis à le Zénith. Les grandes réalisations, il y en a pas comme maire de Paris, mais parce que les grandes réalisations à Paris, elles sont faites par les présidents, hein, que ce soit Beaubourg, le musée d'Orsay.
Alors on vous dira que précisément Anne Hidalgo a un vrai bilan qu'on peut voir dans la ville de Paris.
Je veux pas apparaître ici comme le contempteur systématique d'Anne Hidalgo. Elle a beaucoup transformé la ville, ne serait-ce qu'avec les pistes cyclables, la réfection des places, des grandes
davantage
places.
Davantage donc que Jacques Chirac.
Alors Jacques Chirac, lui, il a eu à mon sens un mérite, c'est qu'il a interdit les grandes surfaces, les hypermarchés, qui étaient alors en plein développement, l'implantation d'hypermarchés et de supermarchés, même au sein de la capitale. Vous savez qu'il n'y a qu'un seul supermarché à Paris, aujourd'hui encore, qui est Porte d'Auteuil. Je ne vais pas faire de pub, mais... Et ça, on a découvert que c'était quand même... Donc il y a eu la multiplication des supérettes, mais c'est quelque chose qui a quand même beaucoup préservé l'habitat parisien. Par contre, sur tout ce qui est circulation automobile, il a eu un peu de retard. Hein, le tournant écologique, on en parlera peut-être plus tard, mais il l'a pris tard. Et dans un premier temps, il s'est surtout attaché à faire des routes, des rues de Paris où on pouvait circuler, les voitures pouvaient circuler assez rapidement et librement. Il était en cela dans la continuité de Georges Pompidou, qui avait dit qui était son maître politique et qui avait dit qu'il faudra que les villes s'adaptent à la voiture.
Même si on oublie aussi qu'il a sauvé certains éléments du patrimoine parisien et notamment il a refusé la grande radiale Vercingétorix qui était une autoroute traverser Paris, donc il l'a su être sur certains points,
sur certains points,
dans le refus à davantage de voitures.
C'est vrai, là il avait refusé cette mesure extrême, par contre il avait instauré ce qu'on appelle les axes rouges pour traverser de part en part, notamment le boulevard de Strasbourg, Sébastopol, qui est aujourd'hui d'ailleurs en grande partie une piste cyclable, mais à l'époque c'était circulation, même pas de possibilité de stationner, donc ça c'était quelque chose qu'il défendait et qu'il a pris ce tournant écolo encore une fois beaucoup plus tard, une fois qu'il est devenu président, pas comme maire.
Est-ce que vous diriez qu'il a fait de Paris une baronnie? Alors on sait qu'il y a eu beaucoup d'affaires autour de Paris, les emplois fictifs qui permettaient de rémunérer des personnes travaillant pour le RPR, avec de l'argent public, le financement occulte plus généralement du RPR, et tout cela semble montrer qu'il s'est servi finalement de Paris pour des ambitions qui étaient des ambitions nationales. Est-ce que c'était simplement un marchepied pour lui, ce poste de maire de Paris, lui qui espérait toujours finalement accéder plus haut ?
Quand il se présente à la mairie de Paris, d'abord c'est parce qu'il estime qu'il a été trahi par Giscard, qu'il est victime d'une agression de Giscard qui envoie contre lui Michel Dornano et il veut défendre c'était un bastion gaulliste, hein, la ville de Paris, donc il veut défendre ce bastion. Ensuite, il voit très vite l'intérêt qu'il peut en tirer pour son destin personnel, c'est-à-dire en effet en faire un marchepied vers l'élection présidentielle qui à partir de 1976-77 devient son objectif.
Donc c'est ça qui l'intéresse finalement, il attend à la mairie Paris de pouvoir devenir président?
C'est ça qui l'intéresse, oui. Alors, il se donne d'une part une dimension internationale. Vous savez que c'est très important qu'on veut devenir président. Donc, en tant que maire de Paris, il voyage énormément. Il accueille des sommets internationaux. Vous savez que le maire de Paris reçoit, S-fonction, tous les chefs d'État qui passent par Paris. Donc, pour l'image. Et puis, il s'en sert aussi, évidemment, pour le financement de son parti. Vous savez, on est avant toutes les lois sur les financements politiques. Et il y a de toute évidence une espèce d'osmose entre le RPR et la mairie de Paris.
Avec des détournements de fonds publics.
Qui a été démontré par la justice avec des détournements de fonds publics pour lesquels il a fini par être condamné une fois qu'il était ancien président. Parce que ça a mis beaucoup de temps et puis qu'il ne pouvait pas être poursuivi pendant ses 12 années de mandat à l'Élysée.
Que ce soit à la mairie de Paris, à l'Élysée ou à Matignon, Jacques Chirac a toujours bien mangé. D'ailleurs, l'importance de ses frais de bouche en atteste. C'était aussi une époque où on ne regardait pas trop à la dépense dans les palais de la République. Il faut dire également que l'image de Chirac, homme de terroir, tient beaucoup à son coup de fourchette. On raconte à ce sujet tout un tas d'anecdotes dignes de la grande bouffe, comme quand le président s'était fait ouvrir des boîtes de cassoulet dans un avion de l'armée parce qu'il crevait de faim. Ou alors quand il avalait un sandwich au milieu de la matinée, puis un autre dans l'après-midi, en plus évidemment d'un copieux petit déjeuner, déjeuner et dîner. Sa boisson préférée était la Corona et on lui a reproché de ne pas boire de bière française. Pas du tout, répliquait Chirac, la Corona ne représente pas plus de 10% de ce que je bois. Bref, un bon vivant. Parisien de naissance mais campagnard de cœur, c'est l'image contradictoire que Chirac a réussi à imposer et qui lui a permis de rallier à lui des électeurs de divers horizons. Un lieu parvenait à rassembler ces deux facettes, le Salon de l'Agriculture.
Ça fait 3 semaines que dans le plus grand secret il s'entraîne. Il s'entraîne à serrer des mains le plus vite possible. Il a revu de A à Z sa technique de palpage de cul de vache. Et surtout, le plus important, s'il veut tenir à tous les stands, il boit uniquement du bouillon de légumes pour aiguiser son appétit légendaire. Il révise tous les dialectes de nos régions. Il parle couramment le langage des bovidés. Et demain, il fait son grand retour porte de Versailles, où il est un dieu vivant. Le cheveu en arrière, les manches retroussées, le pantalon taille élastique remonté jusqu'aux aisselles. Il est prêt. Il, c'est Jacques Chirac. Nom de code, Jacoule Croquant. Alors là, ça va être la fête. Alors là, ils vont retrouver le moral, tous les exposants. Faut dire qu'il sait y faire, le gaillard. Hein. En général, une visite de Chirac au salon, ça dure 7-8 heures. Mais là, je suis sûr qu'il va battre les records. À chaque stand, ça va être la liesse, je vois ça d'ici. 9 heures. Les portes du hangar principal s'ouvrent en grand. Il n'y a plus un bruit. Tout le monde sait qu'il va se passer quelque chose d'important, quelque chose de grand. La foule retient son souffle. C'est lui qui arrive.
Archive de Daniel Morin sur France Inter en 2010. Quelle réaction ?
Bah oui, c'est assez bien vu, il n'y a rien à ajouter presque. Le Salon de l'Agriculture, ça fait partie de la geste chiracienne, hein, de toute évidence. Ça remonte à cette popularité qu'il a soigneusement entretenue, ça remonte à son passage au ministère de l'Agriculture, hein, entre 1972 et 1974, sous Georges Pompidou, où il s'était illustré en résistant dans des négociations marathon à Bruxelles, en résistant à ses 5 collègues, parce qu'après, ou 8 collègues, pardon, on était dans l'Europe des 9 à l'époque. Vous savez, on retardait la pendule pour, on arrêtait l'heure pour terminer dans les temps avant minuit, officiellement. Et il revenait toujours avec une victoire pour défendre les agriculteurs, notamment ce qu'on appelait les montants compensatoires monétaires.
Par conviction ou par calcul politique?
Je pense que c'était un peu des deux, toujours pareil. Il voulait défendre les agriculteurs, mais il voyait bien que l'agriculture, d'abord, les agriculteurs sont une clientèle électorale qui était plus puissante qu'aujourd'hui, et puis par capillarité, les agriculteurs, on le voit encore aujourd'hui, il vaut mieux les avoir avec soi que contre soi. Hein, mais donc, personne encore aujourd'hui n'ose critiquer les manifestations d'agriculteurs, même quand elles sont violentes. Donc, il avait bien vu cet aspect des choses. Et ensuite, il a fait ses séjours d'une journée entière, souvent au Salon de l'Agriculture, avec cette légende qu'il a entretenue, dégustant chaque produit, appliquant cette technique de boisson, de prendre un verre, de simplement le mettre les lèvres et puis le poser discrètement dans un coin, et quitte à reprendre, à se faire passer un verre plein pour faire croire qu'il avait toujours son verre à la main. Enfin bon, et ça, c'est cette popularité ne s'est jamais démentie. Et à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'incident. Même quand il était président, alors que ses successeurs ont souvent essuyé des œufs ou des quolibets au minimum, il n'a jamais eu d'incident quand il est venu, et il a continué en étant ancien président, même fatigué, déjà atteint par les suites de son AVC. Il a continué plusieurs années à venir jusqu'en 2000, jusqu'à la date de son procès, de ce qui est avant son procès pour les emplois fictifs dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire en mars 2011, il était encore au Salon de l'Agriculture.
Parfois, la gastronomie a aussi pu s'inviter dans les relations internationales, comme quand il avait dit des Anglais qu'on ne pouvait pas faire confiance à un peuple dont la cuisine était si mauvaise. Donc il était un peu gaffeur aussi, Jacques Chirac.
Il pouvait être un peu gaffeur, mais je pense qu'il était surtout, à l'époque, je ne sais pas à quelle date il a déclaré ça, mais je pense que c'était du temps de Margaret Thatcher, qu'il exaspérait beaucoup. Et quand je dis qu'il exaspérait, c'est à se prendre avec les deux orthographes. Je crois qu'ils s'exaspéraient mutuellement. Je crois que Chirac ne supportait pas Margaret Thatcher. Il a dû dire ça dans un moment d'agacement. Bon, évidemment, c'était pas très diplomatique.
Maire de Paris et député de Corrèze, Chirac ne perd cependant pas de vue son objectif principal, la présidence de la République. Il a soutenu Giscard du bout des lèvres en 1981 et compte bien jouer sa propre partition aux échéances suivantes, celle de 1986, à la tête du RPR qu'il a créé. Mais ce parti, qui se réclame de l'héritage du général de Gaulle, est-il vraiment gaulliste? Certains, comme Jacques Chancel, semblent en douter.
Vous n'avez jamais imaginé une seule fois que vous pourriez faire alliance avec les socialistes parce qu'il y a dans votre sang un peu de radicalisme qui coule.
Vous savez, tout dépend de ce qu'on appelle les socialistes. Je ne me sens nullement en désaccord avec beaucoup de socialistes. Naturellement, avec tous ceux qui font partie de cette école social-démocrate, qui hélas n'est pas exprimée aujourd'hui en France par le Parti Socialiste, mais qui néanmoins existe, et qui a des ambitions qui, sur le plan social, sont très très proches des nôtres. Mais malheureusement, les dirigeants actuels du Parti Socialiste sont des hommes qui s'expriment à l'intérieur d'un système qui est profondément hostile et opposé à tout ce que représente la majorité en général, et donc le RPR en particulier.
Bruno Dive.
Finalement, cette archive est aussi très actuelle, parce que on pourrait dire un peu la même chose aujourd'hui du Parti Socialiste, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés. À l'époque, c'était le programme commun avec les communistes. Et aujourd'hui, c'est le nouveau Front Populaire, et on voit qu'il peut y avoir des similitudes avec un électorat de centre-gauche qui n'apprécie pas forcément l'alliance avec la France Insoumise. Et à l'époque, Chirac essayait de jouer un peu sur cette dichotomie. Il ne faut pas oublier que quand il est arrivé en Corrèze, il a retourné un certain nombre d'anciens élus radicaux et socialistes qu'il ne voyait pas arriver d'un bon œil, à commencer par Henri Cueil ou Charles Spinasse, ou plusieurs maires socialistes, y compris le maire socialiste qui devait être le candidat socialiste, qui l'a dissuadé de se présenter pour avoir plus de chances de gagner.
Donc il a surallié des gens à lui, y compris à gauche.
Y compris la gauche au début, voilà.
Alors socialiste, gaulliste, caméléon, c'est peut-être le moment de faire une pause dans notre chronologie pour nous intéresser aux convictions politiques profondes d'un homme dont on a beaucoup dit qu'elles étaient susceptibles de varier. On en parle dans le prochain épisode. C'était Salle des Archives, épisode 2, une série de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Gilles Blanchard, attaché de production Lily Corner, prise de son Pierrick Charles, documentation INA Delphine André. Thank you.